Bonsoir, comment allez-vous ? Quand quelqu'un possède quelque chose qui nous manque amèrement, une famille, de l'argent, des enfants, un travail, une amoureuse, je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime, écrivait Verlaine. Ce truc qu'on n'a pas nous manque tellement qu'on ne pense plus qu'à ça. On s'imagine alors que ce truc qu'on n'a pas nous rendrait pleinement heureux. Et on finit par se réjouir du malheur des autres qui pourtant ne nous apportera rien. Si ce n'est un baume sur un sentiment d'injustice qui nous fait croire que celui qui a, a tout et que celui qui n'a pas, n'a rien. Comme si la seule façon d'avoir de la chance serait de la retirer au chanceux présumé.
Bonjour, je m'appelle Yann et j'ai 7 ans. Je voudrais savoir pourquoi je suis jaloux avec mon grand frère. Bonjour, je m'appelle Fabien, j'ai 8 ans et je voudrais savoir pourquoi je suis jaloux de mon petit frère. Merci de me répondre. Au revoir.
Ça, c'est une grande question, docteur Daniel Marcelli. Vous êtes pédopsychiatre, vous avez écrit, entre autres, « Il est permis d'obéir ». L'obéissance n'est pas une soumission chez Albin Michel.
Le problème est peut-être pas tout à fait le même selon qu'on est le plus jeune ou selon qu'on est le plus âgé. Traditionnellement, on a d'ailleurs décrit la jalousie plutôt du côté du grand frère qu'en est, ou de la grande sœur qu'en est un petit frère ou une petite sœur. Oh, qu'est-ce qu'on dit au fond ? Jusque-là, l'enfant était seul et d'un seul coup, il se retrouve avec un petit frère et quoi ? Eh bien, il doit partager. Il doit partager les parents, il doit partager l'amour des parents. Un enfant de 3 ans, 3, 4 ans, qui était jusque-là un enfant unique, et d'un seul coup, voilà qu'un petit frère et une petite sœur débarquent dans la maison. Eh bien, quand la maman va donner le biberon, quand le papa va faire la toilette, quand l'enfant, le bébé, sera dans les bras du papa et de la maman, l'enfant de 3, 4 ans dira, bah, c'était ma place. Qu'est-ce qu'il fait là, cet animal, à prendre ma place ? Et moi, je voudrais bien avoir sa place. Alors, ces moments, en même temps, ce même enfant, il est très content d'avoir un petit frère, une petite sœur. Il est très content parce que il peut faire le grand, etc. Donc l'arrivée du petit frère ou de la petite sœur va confronter l'enfant à quelque chose de très difficile pour lui, mais qui est un peu nouveau. C'est ce que nous appelons l'ambivalence des sentiments. C'est-à-dire qu'on peut à la fois aimer et détester quelqu'un en même temps. Et qu'il faut qu'on se dépatouille dans la vie avec cette contradiction. Eh bien, c'est une grande leçon pour les émotions, pour la vie future, parce que quand on sera avec notre mari ou notre épouse, notre femme, eh bien, très souvent, on a des moments où on aime beaucoup cette personne, et puis il y a des côtés d'elle qui nous agacent et qu'on supporte pas. Donc, il faut qu'on fasse avec ce mélange de sentiments d'amour et de détestation. Alors, du côté du petit frère, c'est un peu différent. Le petit frère, lui, quand il arrive au monde, il a déjà ce grand frère. Et il le regarde. Il le regarde un peu comme il regarderait son papa ou sa maman. Mais pas tout à fait. Parce que il a quand même le sentiment qu'il est moins grand que papa-maman. C'est en quelque sorte quelqu'un qui pourrait presque être comme lui. Et lui pourrait presque être comme ce grand. Donc il s'identifie fortement à ce grand frère ou à cette grande sœur. Et alors quand il a quelque chose que lui n'a pas, il a un jouet, ou il a le droit de regarder une émission de télévision, ou il a le droit de sortir. Alors là, c'est agaçant, puisque lui-même aurait envie de devenir comme ce grand. Il supporte pas bien d'être privé de ce que le grand a. Donc les petits frères ou les petites sœurs sont souvent, entre guillemets, mais jaloux de ce qui est possible pour le grand et pas possible pour lui. Ce qui est souvent en plus attisé, c'est-à-dire comme on met de l'huile sur le feu par les parents quand ils disent « ne sois pas jaloux », etc. Et que dès qu'il y a un mouvement un peu d'agressivité, c'est immédiatement baptisé jalousie, alors que c'est simplement un mouvement de tension.
C'est vrai que les parents, ça les tracasse, ils rêvent d'harmonie, évidemment. Ils essayent parfois de compenser cette jalousie, de donner la même chose à l'un et à l'autre, le même amour, les mêmes objets.
Noël, c'est la meilleure manière d'aggraver la jalousie. Parce qu'effectivement, par exemple, quand à l'anniversaire, il y a 3 enfants, et celui qui a son anniversaire, vite, il faut faire un cadeau aux 2 autres, immédiatement, les 2 autres vont faire, comme je l'ai vu sur certains de mes patients, ils vont regarder le prix, ils vont se mettre à hurler, parce que ça n'a pas tout à fait le même prix, au centime près.
Mais c'est pas leur anniversaire.
Oui, en plus, c'est pas leur anniversaire. Mais certains parents sont tellement angoissés qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de faire un cadeau à celui dont c'est pas l'anniversaire. Et 99 fois sur 100, qu'est-ce qu'on découvre ? Eh bien, on découvre que dans la fratrie du parent, dans les histoires familiales, il y a des vieilles haines fraternelles, des vieilles haines sororales, et qu'il y a eu des histoires de jalousie dans ce que nous appelons le transgénérationnel, et que les parents sont très angoissés à l'idée que leurs enfants revivront ce que peut-être eux-mêmes ou leurs parents ont vécu auparavant.
Je vous rappelle que le docteur Daniel Marcelli est médecin pédopsychiatre et que c'est intéressant cette notion d'aimer et détester. En même temps, vous connaissez le principe des petits bateaux, des questions sont posées par des enfants et nous, nous trouvons des spécialistes pour leur répondre.
Bonjour, je m'appelle Audrey, j'ai 7 ans et demi. Je voudrais savoir d'où vient la couleur sur les plumes des oiseaux. Merci.
Audrey, nous aussi, nous te disons merci avec un joli élan. Guilhem Le Saffre.
Ah, alors ça, c'est une vaste question. Je vais essayer, Audrey, de te répondre le plus simplement possible. Il y a deux types de couleurs chez les oiseaux. Le premier type, ce sont des pigments, c'est-à-dire des substances chimiques qui vont donner leur couleur aux plumes. Il y a essentiellement la mélanine, qui est d'ailleurs le pigment qui te donne la couleur de tes cheveux, par exemple, ou la couleur de ta peau. Cette mélanine, elle donne des pigments noirs, marrons, enfin des couleurs qui sont assez soutenues. Et puis, il y a les caroténoïdes, qui, eux, vont donner des teintes allant du jaune au marron. Pour les autres couleurs, ce ne sont pas les pigments qui sont dans la plume, mais la structure même de la plume. Pour l'expliquer, prenons la bulle de savon ou l'arc-en-ciel. Ce sont des couleurs apparentes qui proviennent d'un traitement de la lumière, si vous voulez. Eh bien, c'est exactement la même chose avec les plumes. Les plumes vont agir sur la lumière et nous renvoyer qui du bleu, qui du vert. Donc voilà, il y a deux grands types de couleurs pour les plumes des oiseaux.
C'est un effet d'optique.
C'est un effet d'optique, exactement. Peut-être puis-je préciser que, par exemple, la couleur du rose des flamants vient de leur nourriture. C'est-à-dire que les caroténoïdes qui se trouvent dans leur nourriture passent dans leur plume après digestion, après ingestion.
Donc si ça se trouve, si le cygne se mettait à manger la nourriture du flamant rose, le cygne blanc,
oui.
Et peut-être il viendrait rose.
Eh bien, vous savez que vous avez des idées incroyables, il faudrait peut-être tenter le coup.
Il faudrait déjà trouver un cygne, qu'on l'attrape et qu'il soit d'accord.
C'est le plus difficile.
Eh oui, Guilhem Saffre a le sens de la transmission. Il était professeur de lettres, mais surtout administrateur du Centre ornithologique d'Île-de-France. Vous trouverez les références de tous ses livres sur les oiseaux sur le site des Petits Bateaux. Vous pouvez également réécouter cette question par franceinter.fr. My little chauffeur is lonely. Standing there, killing time. Can't commit to anything but a crime. Leaders on vacation. An open invitation. Animals, evidence. Pearly gates look more like a picket fence. Once you get inside them. Got friends but can't invite them. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell. Cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My love so far is lonely. Look at you, needing me. You know I'm not your friend without some greenery. Walking wearing feathers. Peter should know better. Your cover-up is caving in. Man is such a fool, why are we saving him? Poisoning themselves now. Begging for our help, wow. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell. Cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My C'était Billie Eilish, une jeune américaine de 18 ans.
Les petits bateaux sur France Inter.
Pour poser une question aux petits bateaux, vous faites le 01 56 40 43 57.
Je m'appelle Lydia, j'ai 5 ans. Pourquoi on dit que il faut manger une pomme par jour?
Isia, Sylvie Brunel est spécialiste des pommes. Elle est géographe, elle est écrivain et elle est professeure à Paris-Sorbonne. Alors Isia vous pose cette question.
Pourquoi faut-il manger une pomme par jour, Isia? Eh bien parce que la pomme, c'est l'aliment santé par excellence. Au Moyen-Âge, on fabriquait ce qu'on appelait les pommades à partir de la pomme.
Non, ça vient de là?
Oui, ça vient de là. La pomme, ça a toujours été considéré comme l'aliment miracle. Alors on dit, une pomme chaque matin éloigne le médecin.
Ah oui, c'est vrai.
En anglais, c'est an apple a day keeps doctor away. Donc c'est vraiment un aliment qui est d'abord facile, facile à glisser dans son cartable, facile à glisser dans son sac, qu'on peut trouver en toute saison. C'est un aliment qui est pratique. Et dans la pomme, on trouve tout ce qui est bon pour la santé. D'abord, beaucoup d'eau. Ensuite, la pomme n'a que 50 calories pour 100 grammes. Alors ça dépend évidemment, vous avez des pommes qui sont plus sucrées que d'autres, mais la pomme, c'est un aliment qui a tout ce qui est bon pour notre santé. Elle permet, dans le cadre d'un régime minceur, de calmer sa faim, d'avoir une impression de satiété sans absorber des calories excessives. Elle est riche en potassium. Par exemple, quand vous sentez venir la crise d'angoisse, souvent, vous savez, ça arrive, hein, on est inquiet, on a un examen ou on a un coup de pompe quand on est sportif. Croquer dans une pomme ou même boire un verre de jus de pomme permet de calmer les angoisses, permet de se sentir bien. Il y a un mot un peu technique, on dit qu'elle contient des polyphénols. Les polyphénols, ce sont des substances qu'on appelle des antioxydants. Et ça a d'énormes vertus pour l'organisme. Moi, je dis toujours que Ève a eu raison de préférer la pomme au paradis.
Ça, c'est une autre histoire, où nos pommes au port genre éloignent le docteur. Ça, c'est en patois de la maison de la radio. Merci en tout cas pour ces conseils. Je ne sais pas si on a toujours une pomme dans sa poche quand se profile une crise d'angoisse. Peut-être on devrait.
Bonjour, c'est Olivier Corvin-Gilles, j'ai 8 ans. Et j'aimerais savoir comment Big Flo et Oli ont débuté dans le rap. Merci de me répondre. Au revoir.
Bonsoir, miracle absolu, nous avons réussi à attraper Big Flo et Oli qui vont
au détour d'un couloir.
Ouais, c'est cool les garçons d'être venus.
Ben, alors, merci beaucoup. Alors écoutez, comment on a commencé dans le rap? C'est une question assez compliquée parce que je crois qu'on a toujours écrit, on a toujours aimé écrire, on a toujours raconté des petites histoires, fait des petits poèmes pour nos parents, pour les amis. Et on a toujours aussi inventé des petites chansons qui parfois n'avaient pas vraiment de sens.
C'est ce que j'allais dire. On a en tout cas commencé par l'écriture, par cette envie-là de raconter des choses avec le stylo, de mettre sur papier des idées qu'on avait, des petites histoires. Ça vient vraiment de l'écriture. C'est le tout début. Ensuite, on a rencontré le rap comme ça, par hasard, en écoutant un morceau de rap.
Le rap est une personne? Tu le personnifies?
Ouais, je le personnifie. Je trouve que c'est une belle image.
D'accord.
Comment étaient perçus ces poèmes, chansons que vous écriviez? On vous disait bravo au génie ou ouais, c'est sympa, mais sans plus?
En vrai, on nous disait pas mal bravo au génie. C'est vrai qu'on a eu la chance, nous, d'avoir des parents qui nous ont toujours soutenus, qui nous ont toujours encouragés dans cette voie, même si elle est artistique. Et donc, parfois, un peu, elle fait un peu peur aux parents. C'est vrai que les parents, parfois, ils peuvent avoir peur quand on dit on va faire de la musique, parce que c'est pas quelque chose qui est palpable. C'est pas je obtiens un diplôme et hop, grâce à ce diplôme, c'est sûr que je vais trouver un travail. Mais c'est un travail aussi d'être musicien. C'est un
travail. Et comment?
C'est beaucoup de travail et parfois, on peut beaucoup mieux réussir qu'avec un très beau diplôme. Donc, ça fait. Il y a aussi une grosse perspective d'avenir. C'est ça que j'aimerais dire aux certains parents qui nous écoutent, même si évidemment, ça fait peur. Notre mère nous a juste dit. Il faut que vous ayez le bac. Si vous avez le bac, vous allez... Oui, on a eu le bac.
Passe ton bac d'abord.
En plus, bac ES, non? Quand même, c'est le plus compliqué,
bac ES,
je
crois. Et
moi, c'est
S.
C'est le plus compliqué, c'est le S.
Le S, ça se discute.
Scientifique.
Mais en tout cas, on en est venu au rap, on a commencé à faire du rap parce qu'on a eu déjà cette envie d'écriture et ensuite, on a été poussé par un entourage bienveillant qui nous a toujours dit « Vous pouvez y aller à fond. »
Un, les mots. Deux, les notes. Trois, les encouragements.
C'est pas mal résumé.
C'est un peu la recette, oui. Mais surtout, je tiens à dire aux plus jeunes qui nous écoutent qu'il ne faut pas vouloir devenir rappeur ou vouloir devenir youtubeur parce que c'est un peu la mode et parce que tout le monde fait ça ou parce que c'est un peu le truc que tout le monde aime. Il faut le faire si vous sentez que vous avez ça en vous. Il faut faire vraiment ce que vous sentez en vous.
Si ça vous fait du bien en le faisant, si après à écrire vous vous sentez mieux.
Ce qui vous plaît, ce qui vous plaît depuis petit, c'est de faire la cuisine, ben, plutôt faites de la cuisine plutôt que du rap, quoi. Écoutez votre voix intérieure.
Puis si ça marche et si avec ça tu deviens célèbre,
tant mieux.
C'est un bonus pas désagréable parce que ça marche, tu feras des concerts, etc. Mais d'abord, les bonnes raisons et parce que tu en as envie au plus profond de toi. Ouais.
Moi, je suis mère, j'ai des enfants, mes enfants ils s'engueulent. Mais vous, vous vous engueulez pas.
Ah si,
on s'engueule, ça nous arrive. Je pense même que c'est humain, c'est un peu indispensable quand tu es tout le temps avec une personne et quand tu es très proche de quelqu'un, c'est la personne la plus proche
qui
prendrait un peu tes humeurs, parfois ton stress, ta pression, etc. Mais tant que ça déborde pas jusqu'à une séparation et tant que il y a toujours quand même après les engueulades une réconciliation, une notion de respect l'un et l'autre, ça m'inquiète pas.
C'est normal de s'engueuler entre frères.
Gros bisous Elisio, merci pour le soutien et merci beaucoup. On écoutait cette émission. Avec nos parents et avec les parents d'amis qui ont rentré de vacances.
Big Flo et Oli, tu connais non ?
Petit biscuit !
Tout le monde me dit, tu sais, pour ton avenir on a peur. On voudrait que tu sois un médecin, toi, tu veux être un rappeur. Ma meuf m'a dit, tu m'aimes pas assez, on dirait que tu t'es lassé. Qu'est-ce qui s'est passé ? T'as plus le même regard quand t'as fini de m'embrasser. Je m'endors avec mes coudes, blues, plus personne ne croit au coup de foudre. La voisine est venue me voir pour me dire qu'elle en avait marre de mes engueulades avec ma mère. À chaque fois c'est pareil quand je m'énerve. Je tape dans la porte et je casse mes affaires. Puis je m'endors et quand je me réveille je regrette. Tout le monde me parle, tout le monde croit savoir ce que je dois faire de ma vie, ce qu'il y a dans ma tête. Mais j'écoute que moi et je me répète que
c'est pas grave. Ce soir tu danses, la nuit porte conseil. Faut pas que tu penses.
Ne pense plus à rien, 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 rien.
En fait, tu m'apportes que des problèmes à l'essor de ma vie. De toute façon, je le pensais pas quand je te disais je t'aime. On nous répète qu'avant c'était mieux. On croit en l'amour qu'une semaine sur deux. Le temps passe vite, on est des jeunes vieux. Hier, un petit m'a appelé monsieur. Par la fenêtre, j'attends un signe. Je pense à mon avenir qui doucement se dessine. En attendant, je me remets ce vieux son de Biggie, celui qui fait
It was all a dream.
Un seul sourire et mille pleurs. On attend la surprise comme les Kinder. Pour éviter de dire les enfants, j'ai rencontré maman sur Tinder. Des questions sans réponse se baladent dans ma tête. La main sur le cœur, des fois j'ai trop peur qu'ils s'arrêtent. Mais j'écoute que moi et je me répète que
c'est pas grave. Ce soir tu danses, la nuit porte conseil. Faut pas que tu penses.
Ne pense plus à rien, 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 rien.
Demain. Ça ira mieux demain.
C'était Demain, Big Flo et Oli avec Petit Biscuit, extrait de leur troisième album, La Vie de Rêve.
Bonjour, j'ai 9 ans, je m'appelle Léna et j'aimerais bien savoir si la mère d'Adolf Hitler soutenait pour faire toutes ces bêtises. Merci, au revoir.
Didier Le Fur, vous êtes historien. Que pensez-vous de cette question, la mère d'Hitler?
Bah, c'est une jolie question, quoique le personnage soit pas du tout sympathique. Elle est importante parce que finalement, cette mère d'Hitler va être excessivement présente dans la jeunesse de ce monsieur. Elle s'appelle Clara Pötzl. Elle est née en 1860. C'est une jeune fille qui n'a pas beaucoup d'éducation, qui va devenir servante à l'âge de 16 ans et qui va travailler longtemps pour celui qui va devenir son mari, qui est Alois Hitler.
Elle épouse son patron, donc.
Elle épouse son patron qui avait déjà eu 2 femmes, qui avait déjà fait aussi des enfants un peu ailleurs. Le seul problème, c'est que cette femme mariée va avoir de grosses difficultés à garder ses enfants viables, que 3 enfants avant Hitler vont naître et vont mourir en bas âge, qu'un autre garçon après Hitler va aussi mourir, et que finalement, de cette fratrie de 6 enfants, simplement Hitler et une fille qui s'appelle Paola vont demeurer. Il aura aussi une demi-sœur qui s'appelle Angela, qu'il va aussi garder. Mais sur cette douzaine d'enfants que son père a fait, finalement, que 2 filles et 1 garçon vont résister. C'est un enfant fragile, pas de bonne santé. Sa mère va l'allaiter longtemps. Il va se créer forcément un lien particulier parce qu'elle a perdu 3 enfants. Elle veut garder celui-ci, donc elle dépense beaucoup d'énergie. Elle va lui pardonner énormément de choses, son caractère insupportable apparemment, déjà très très rapidement. Elle le protège de tous les côtés et lui pardonne tout et lui laisse tout faire. Dès 16 ans, il arrête de faire l'école, il veut devenir musicien, il veut devenir poète, il veut devenir peintre. Elle l'encourage dans toutes ses activités. Il décide de partir à Vienne alors qu'ils n'ont plus beaucoup de sous parce que son père est décédé en 1903. Et là, on est en 1907. Mais elle lui donne sa part d'héritage et elle le soutient toujours continuellement. Si elle avait vécu 26 ans de plus, elle aurait vu son fils accéder au pouvoir en 1933. Je pense qu'elle aurait été très fière. Et de par cet amour et cette espèce de volonté de voir son fils survivre, en fait.
Et elle était, vous venez de le dire, Didier Le Fur, probablement malheureuse dans sa vie privée.
Incontestablement, on sait que Alois battait ses enfants et que, du coup, aussi, Hitler battait ses frères et sœurs. Alors, c'est pas faire la caricature d'un individu par sa famille et justifier après son action politique, hein, certainement pas. Mais l'homme, au départ, bah comme dans beaucoup de cas, avec une mère qui surprotège, qui a peur et qui n'est pas forcément heureuse dans sa vie, et un père absent et, quand il est là, autoritaire.
Donc, pour répondre à Elna, est-ce que Hitler était soutenu par sa mère pour faire toutes ces bêtises? Oui, sauf que la mère d'Hitler n'est pas restée jusqu'au bout des bêtises.
C'est-à-dire qu'elle l'a encouragée dans toutes les bêtises d'adolescent, si j'ose dire, ou dans tous ses rêves, plus exactement. Mais elle est morte en 1907 et que elle n'a pas vu ce que va faire son fils ensuite, ni la carrière qu'il va faire dans l'armée, en politique et autrement.
Merci à Didier Le Fur d'avoir répondu à cette question qui n'était pas facile. Vous trouverez les titres des ouvrages de Didier Le Fur sur le site des Petits Bateaux. Cette émission est à réécouter sur franceinter.fr. Florent Bugeon, Marjorie de Voucou, Eliane Gérard, Noël Bréham, Jean-Baptiste Audibert, nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à 19h30 et nous vous laissons avec Denis Chessot.